La DGSE doit se penser comme un agent secret, un agent secret. Son identité est protégée, son appartenance au service doit être conservée, secrète. Le vocable agent secret est plus large, à mon avis, que espion. Espion, c'est comme soldat, c'est un métier. Vous êtes militaire, vous êtes soldat. Espion, c'est une gamme de personnel très, très spécifique.
L'espion, oui, c'est une partie de l'activité. C'est bien l'activité d'espionnage que mène la DGSE, puisqu'elle travaille à l'étranger dans la clandestinité.
C'est un métier qu'on fait nulle part ailleurs, en fait. C'est très différent du reste. C'est une vie assez exaltante.
Je pense que j'ai un naturel plutôt joueuse. Donc aller chercher et se mettre un peu en danger, ça l'intéressait. Et puis c'est ce risque-là qui fait qu'on a envie d'y aller.
Directeur général, première.
La DGSE, c'est une maison qui est composée de gens ordinaires pour faire des missions extraordinaires et avec des moyens exceptionnels.
J'étais spécialiste de tout ce qui était poudre et explosif sur les missiles, la partie explosive d'une tête nucléaire, voilà, sur tous les systèmes-là. Le programme de Saddam Hussein, c'était un des dossiers sur lesquels j'ai travaillé. Donc on travaille à vérifier ce qu'il développe, ce qu'il achète, ce qu'il teste. Donc du coup, quand la question des armes de destruction massive arrive, à quelque part, on est déjà prêt.
My purpose today is to share with you what the United States knows about Iraq's weapons of mass destruction. Numerous intelligence reports over the past decade indicate that Saddam Hussein retains a covert force of up to a few dozen Scud variant ballistic missiles. These are prohibited systems.
Un missile Scud, c'est un tube métallique de 88 cm de diamètre. Un pipeline pour le pétrole, c'est un tube de 80 cm. Qu'est-ce qui ressemble plus à un tube de 80 cm qu'un tube de 88 cm? On nous disait, oh là là, dans ce bâtiment-là, il y a des corps de missiles. Et en fait, pas du tout, c'était une usine de tapis. Le tapis roulé donnait l'impression tubulaire d'un corps de missile.
Il n'y a pas là de justification à une décision unilatérale de recours à la guerre. L'Irak ne représente pas une menace immédiate telle qu'elle justifie une guerre immédiate.
L'espionnage, c'est mon métier. La finalité, c'est l'enseignement, c'est savoir. Savoir pour pouvoir quelque chose. Et l'investissement qu'on fait ici, il est d'abord dans le savoir. J'ai rejoint la DGSE en 1987, juste après mes études à Sciences Po. J'ai écrit de manière extrêmement naïve maintenant un courrier au ministère de la Défense pour dire voilà, je suis intéressé par rentrer à DGSE, j'ai vu qu'il y avait un concours et je souhaiterais donc candidater.
En fait, c'est eux qui m'ont repéré. Ils sont venus, c'était un peu à la sortie des cours. J'étais un peu sceptique au début, mais après j'ai vite vu que c'est pas du pipeau, quoi.
Ce qui m'a le plus étonné en arrivant, C'est que beaucoup de gens, quand j'expliquais mon parcours et que je venais du privé, me disaient « Ah, donc tu viens de l'extérieur ». Je savais pas comment je devais le prendre et j'ai compris qu'effectivement, c'était un monde à part.
On a un circuit arrivé, donc on commence à voilà, passer par de nombreux bâtiments parfaitement inconnus. Et ce qui frappe, c'est que c'est souvent ils sont anonymes. À l'époque, en tout cas, les pièces étaient des numéros, des lettres, rien de très explicite.
Ma motivation était simple, c'était à la fois servir et l'étranger. Et vivre une vie en situation d'exposition, avec derrière le plaisir du jeu, le jeu d'espion, les positions, voilà, le dessous des cartes, savoir ce que personne ne sait. Voilà, c'était ça ma motivation.
Et ce qui m'avait attiré, c'était le goût de l'aventure, de l'international, des crises. Moi, je me souviens, quand j'étais tout petit, en fait, j'étais chez ma grand-mère en vacances dans le nord de la France, et je regardais les informations, j'avais 7 ou 8 ans, c'était la guerre du Liban à l'époque, il y avait des combats dans les rues, et ma grand-mère me surprenait, me disait « Mais arrête de regarder ça, c'est la guerre, c'est horrible, c'est pas de ton âge », mais ça m'intéressait, en fait. J'avais cet attrait, presque cette fascination pour l'actualité internationale, les crises et ce qui se passait à l'étranger.
J'étais dans un régiment parachutiste avant de venir ici. Je pensais à la DGSE, découvrir l'aventure, la piste en Afrique, toutes sortes de choses. Et quand j'ai été reçu par un colonel qui recevait tous les jeunes recrues, il m'a dit, droit dans les yeux, ne t'attends pas à sauter en parachute à 10 000 mètres, à aller ramper dans la boue. Et je me souviens, pendant qu'il me disait ça, penser... qu'il était en train de me tester, mais qu'en fait, ce serait ce que j'aurais, mais qu'il essayait de tester ma motivation. Et en fait, j'ai découvert un univers bureaucratique à la DGSE, parisien, je suis provincial, c'était difficile.
Entrer à la DGSE, vous avez les formations qui vous permettent de rapidement intégrer votre service et remplir la mission. Mais si vous voulez devenir espion, parce que nous sommes le service des espions, vous allez faire un autre stage qui dure à nouveau plusieurs mois. Et ce n'est simplement qu'à l'issue de ce stage que vous devenez, comme on dit chez nous, officier traitant, espion.
L'officier traitant, c'est la personne qui est chargée par le service de rencontrer un contact, une source, et d'échanger avec elle pour obtenir les renseignements que cette personne doit pouvoir procurer au service.
Un officier traitant, c'est quelqu'un qui recueille du renseignement à partir d'une source humaine en l'amenant, en agissant sur des leviers, à transgresser un interdit et à nous dire ce qu'il ne devrait pas nous dire. Le métier d'officier traitant est un métier qui demande plus de savoir-être que de savoir-faire.
La plupart des officiers traitants de la DGSE sont sous couverture diplomatique en ambassade. Ce n'est pas James Bond. On n'a pas un Walter PPK dans la poche. Non, éventuellement le vodka martini, c'est possible, mais... En général, on joue plus sur la subtilité, la discrétion et la gestion rigoureuse des moyens de communication que sur le M4 ou le bloc.
Pour être officier traitant, il faut avoir un certain nombre de qualités qui nécessitent de valider des formations professionnelles qui sont des formations extrêmement rigoureuses et que tout le monde n'arrive pas à réaliser en fait.
Ah,
un itinéraire de sécurité, c'est une procédure de sécurité individuelle qui vise à confirmer ou infirmer la présence derrière soi d'un dispositif de filature. Comment on va la jouer? On va alterner des axes à forte densité de population avec des axes à moindre densité de population. Ceci de façon à forcer le dispositif de filature à changer d'attitude.
Ça veut dire qu'on va, utiliser l'environnement urbain, comment on construit les villes ou un bâtiment, n'importe quoi, pour détecter la présence de gens derrière ou observer sans être vu.
Au cours de l'itinéraire, on va effectuer des contrôles. Un contrôle, comment ça se passe? Je suis sur un axe de moindre densité. J'exécute un changement de direction pour pénétrer dans un local. Local qui va m'offrir des vues sur le carrefour. Donc je vais voir les fileurs se mettre en place sur le carrefour pour attendre ma sortie et reprendre ensuite la fenêtre derrière moi.
L'idée justement c'est d'évoluer dans une ville sans avoir l'air d'un espion. Si on se retourne avec un regard inquiet ou paranoïaque, assez rapidement voilà, on va confirmer aux gens qui sont derrière s'ils sont là qu'ils ont mis dessus la bonne personne. Et donc ça c'est... ça amène à arpenter nombreuses fois les mêmes rues avant de trouver la bonne approche.
Paris est un terrain de jeu très agréable pour ce genre d'exercice. Les quartiers historiques, c'est très facile de faire ce genre d'exercice dans Paris.
Bienvenue. Donc séance de protection personnelle avec différents exercices pour compléter ce qui a été vu précédemment. Quel que soit votre état du moment, votre forme du moment, on fait des mouvements utiles et qui ne nous mettent pas évidemment en danger. Ça va? On démarre?
Il nous faut des bases dans de multiples domaines. Il faut pouvoir être polyvalent, il faut être un petit peu l'homme à tout faire. Mais en matière de protection personnelle, se protéger soi-même, puis protéger des personnes autour, ça fait partie d'un gros socle de compétences.
C'est la première expo.
Toutes les personnes qui arrivent au niveau de chez nous, ils font le point des stages, il y a les stages de tir, donc arme de poing, arme d'assaut, etc.
Maintenant, elle est où? Pour faire passer le code? Elle est ici, elle est haute, elle est bien, elle est déjà armée. Pour pouvoir passer à ce qui s'appelle une frappe en marteau. Il faut qu'ici, je fais une frappe avec cette partie du poing et sur quelque chose qui serait intéressant.
Il faut que ça soit accessible à tout le monde, quel que soit le profil. Jeune, moins jeune, athlétique, un peu moins. Pas uniquement des individus exceptionnels.
Un agent secret. Ce dont on dit son arme, c'est qu'il y a eu un petit souci, on a été découvert. En attendant, même d'être capable, sur certaines positions, certaines missions, être capable de prendre une arme et de l'utiliser.
Il nous faut les bases. Les bases pour être affûtées ici, particulièrement, et pour pas être une proie facile.
Ok, prêt!
On va pas non plus vous apprendre tout de suite à faire des choses dont vous n'aurez pas besoin. Il faut pas non plus mettre la charrue avant les bœufs. Donc on a des stages qui sont crantés à différents moments de votre parcours où vous allez apprendre le béaba.
Je suis avec Elisabeth.
Ouais,
et je dois lui remettre un objet.
vous demander un petit service, s'il vous plaît. Vous voyez la dame assise là-bas avec une écharpe rose? C'était ma prof d'anglais quand j'étais au lycée.
D'accord.
Et elle était super sympa. Et on a rendez-vous avec 4 anciens élèves tout à l'heure pour boire un café avec elle. Et on a tous acheté ça parce qu'elle nous disait tout le temps « we can do it, we can do it ».
D'accord.
Et les 4 autres, ils lui ont fait la blague, ils lui ont fait remettre par des passants le petit objet.
D'accord.
En lui faisant un clin d'œil.
Ouais.
Et je voulais vous demander si ça vous ennuyait pas de le faire, s'il vous plaît.
Ouais,
ah, merci.
Oui,
vous lui dites juste « c'est de la part de... » Bonne journée.
D'accord, ok.
Merci beaucoup, c'est hyper sympa.
Test de la capacité d'un agent à être pour de vrai espion, c'est-à-dire de recruter et de traiter une source.
On vous loge dans Paris où il y a une activité sociale, classiquement un bar, un restaurant, et on vous pointe quelqu'un et on... Après, il faut aller vers la personne au contact et puis engager évidemment la conversation.
Monsieur, vous avez du feu par hasard?
Do you have any light?
Non.
Ça demande vraiment une réflexion sur comment quand on rencontre quelqu'un, comment on crée un lien, comment on pose quelque chose qu'on partage, parce que ça va mettre la personne en confiance.
Do you mind if I smoke here?
No,
it's okay.
Cool.
Where are you from?
Iran.
You're, sorry?
Ireland.
Ireland, okay, yeah, sure.
Yeah, when they come to Manta.
Oh my god, so...
Yeah.
What is like, how are you playing right now? I mean, like, you're still continuing?
No, finished.
Like us.
Yeah.
Alors, en fait, là, sur ce type d'exercice-là, encore une fois, ce qui est très intéressant, c'est la capacité du stagiaire à avoir le bon prétexte et non la bonne excuse.
And you're gonna come back for like the Olympic game?
Maybe. My friend who's working is coming up.
Okay.
He's coming over.
You should like stay in contact with me. I'm working for like the French temple in Paris.
Okay.
And like we have like a seat, like for the Olympic game,
okay,
that we have to give.
C'est là que la réflexion du candidat rentre en ligne de compte, c'est-à-dire qui je suis, dans quelle posture je m'engage, je suis quoi? Qui, comment je le fais, voilà.
Et le but, voilà, c'est de ramener, savoir un peu ce que fait la personne, quelle est son activité, ce qu'elle fait là, le moyen de la contacter, tout élément, voilà, qui permet de, voilà, de comprendre qui elle est et peut-être de la recontacter ensuite si on en a besoin.
So, like, you have any email address or phone number?
Yes, I can give you my email.
Yeah, sure, sure.
If I can pass it on to my friend.
Yeah. Do you have a plan?
Yeah.
J'étais plus excité, oui, que inquiet par cette première mise en situation. Après, il y a le souci de bien faire, de bien comprendre l'exercice. Mais j'ai bien aimé, ça m'a confirmé que cette idée que j'avais, que c'était un univers dans lequel je pouvais m'épanouir, c'est confirmé dans cette phase de formation.
Le fond de tout ça, c'est que c'est aussi amener des gens à trahir les pays qui servent et que ça va pas de soi pour le prendre des gens, mais que quand la relation se noue, c'est pas forcément sous cet angle-là que c'est présenté.
Pour amener l'individu à transgresser un interdit, on va agir sur des leviers, le fameux MICE, monnaie, idéologie, la compromission et l'ego.
Le MICE, oui, c'est le MOOC, c'est la théorie. De fait, énormément de sources trahissent leur pays ou aident un service étranger parce qu'elles ont besoin d'argent à un moment donné, elles ont besoin de reconnaissance. Ça reste des ressorts qui sont très très forts. Mais c'est quelque chose que vous mettez en œuvre, à mon sens, de manière assez naturelle en fait. Je pense que certains services qui ont des moyens financiers très très importants utilisent beaucoup l'argent. Les anglo-saxons, par exemple. Mais après, il y a tout le reste. Il ne peut pas y avoir que l'argent. Il faut qu'il y ait aussi l'intérêt pour la source, l'intérêt pour ce qu'elle représente, pour sa structure, pour son pays. Il faut aussi lui expliquer pourquoi vous avez besoin d'elle. S'il n'y a que l'argent, à un moment donné, la source, elle va être prête à vous inventer n'importe quoi pour continuer à avoir sa rémunération. Donc, il faut trouver le bon dosage. Et moi, je reste persuadé qu'il faut la convaincre de pourquoi elle fait ça et pourquoi on fait ça ensemble.
Sur les sujets que je traite, les armes prohibées utilisées par des régimes autoritaires, l'idéologie, c'est le moteur le plus puissant en fait, quand vous avez, sur un théâtre de guerre, quand vous avez subi des atrocités, les effets d'une arme comme une arme chimique, le moteur, il est personnel. Hein.
Des défecteurs, je crois, de l'Union soviétique disaient qu'il y avait le French paradox, c'est que si vous essayez de piéger un Français homme avec une maîtresse, en lui disant voilà, on t'a pris avec Tatiana de 22 ans, maintenant on va aller montrer ça à ta femme, donc tu travailles pour nous, sinon on montre ça à ta femme, ça ne marchait pas, c'était le French paradox, ça ne marchait pas. Ils disaient, si vous voulez, allez-y, montrez ce que vous voulez à ma femme, de toute façon, elle comprendra, ou elle est déjà au courant, ou... Je pense pas que les services occidentaux, en général, utilisent beaucoup ce levier-là. C'est pas dans la culture.
Alors moi déjà, la compromission, j'arrête. Moi j'estime que ça marchera pas. On va pas tendre le bras à quelqu'un, et si vous lui tordez une fois pour qu'il fasse quelque chose, bah, la seule chose qu'il va faire, c'est essayer de sortir le bras de son étau. Donc pour moi, la compromission, ça peut être un one shot, mais dans des cas d'extrême urgence, mais c'est pas du travail. Vous savez, c'est pas compliqué, les gens, ils aiment parler d'eux. Faites le test. Faites un déj avec un ami, vous allez voir. Si vous lancez la conversation sur lui, vous pouvez passer le déjeuner à parler de lui. Et une source, c'est pareil.
Quand on